du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans le Lauragais. 97.9.
Soyez les bienvenus, Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause de déjeuner. Dans un instant, on va évoquer la crise agricole avec Andros Jankovic qui était hier soir dans le département des Hautes-Pyrénées au contact des agriculteurs. Dans un instant, on écoutera son reportage qu'elle a réalisé dans la soirée. Et puis nous prendrons la direction de Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, l'Escar, et aurons pas mal d'événements dans ce diocèse dans les prochains jours et notamment ce week-end. Ce sera avec la responsable de la communication, Violaine Ricourt-Dumas, qui sera avec nous. Et puis, on retrouvera également, comme chaque semaine, le regard des écrivains sur les Pyrénées. Ce sera Anne Lasserre qui sera avec nous. Mais au cœur de ce magazine, c'est l'actualité, avec dès maintenant les titres à la une, les titres qui sont présentés par Wassim Dir de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Vaccination en urgence dans les Hautes-Pyrénées. 82 bovins protégés contre la dermatose nodulaire. Le CHU de Toulouse conserve sa couronne. Il reste le meilleur hôpital de France, selon Le Point. À Lourdes, les jeunes ont rendez-vous. Akiro revient en 2026 pour 4 jours de fêtes et de foires. À Saint-Giron, Christophe Mirouz entre dans la course et promet une politique de proximité. À Toulouse, les réveillants solidaires s'invitent à table. Au programme, partage, musique et esprit de Noël. Les bibliobus de Toulouse partent en tournée. 40 000 livres et DVD à portée de main pendant les vacances. Toulouse s'embrasse de lumière boréale au port de la Dorade. Une expérience unique à l'approche des fêtes.
Voilà pour les titres à la une de l'actualité régionale. Ces titres seront donc développés dans moins d'une demi-heure avec Wassim Dir, que l'on remercie, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Wassim évoquait la crise agricole. On en parle dès maintenant avec Andros Jankovic, qui était au contact des agriculteurs hier dans la soirée dans les Hautes-Pyrénées.
Ce mercredi soir, peu de temps après avoir reçu la visite de Monseigneur Mika, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, les agriculteurs des Hautes-Pyrénées ont donné les contours de la suite de leur mobilisation. Après près d'une semaine de blocage des entrées d'autoroute, ils ont décidé de mettre en place des barrages filtrants aux abords des stations de ski cette fois-ci. La pression est clairement montée d'un cran pour l'intersyndicale agricole. Pour autant, la décision de bloquer l'économie locale en mettant à mal l'accès aux stations de ski 2 jours avant les vacances de Noël ne fait pas l'unanimité entre les agriculteurs eux-mêmes, puisque vous savez, nombre d'entre eux sont aussi des saisonniers dans les vallées. Les annonces de la CR65, la coordination rurale dans les Hautes-Pyrénées, hier au rond-point de l'autoroute à Séméac, ont donné lieu à un dialogue plutôt musclé. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les agriculteurs vont y aller crescendo. Ce jeudi matin, ils s'installent à Haro, n'en déplaise à Monsieur Pellieu, tout en maintenant leur présence aux entrées d'autoroute. C'est Sylvain Arberet, président de la CR65, qui a pris la parole le premier hier soir.
Donc aujourd'hui, on a eu une réunion intersyndicale à la Chambre d'agriculture. Donc ce qui en ressort, c'est qu'il faut continuer le mouvement. Alors on n'est pas tout à fait tous d'accord. Tous, on est d'accord pour garder les points de blocage sur la 64, donc la 64 bloquée. Vu que les autres départements bloquent aussi, on gardera la 64 bloquée. Là où on n'est pas tous d'accord, nous on voulait aller bloquer dès demain une partie des vallées, ou du moins faire des barrages filtrants. Donc la CR et la CONF, on est d'accord sur ce point, c'est d'aller dans les vallées faire des barrages filtrants dès demain. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai M. Pellieu qui m'a appelé. Alors, il m'a appelé ce matin me disant qu'il ne fallait pas bloquer les stations, que ça allait mettre à mal l'économie du département. Bon, moi, ce que je lui ai répondu, c'est qu'on a abattu un peu toutes nos cartes, qu'aujourd'hui, eh bien, justement, on va s'attaquer à l'économie du département, parce que ça ne les gêne pas à l'État de s'attaquer à nos économies, à nos fermes. Toujours est-il, demain, nous, on aura un groupe qui partira sur les stations de M. Pellieu. Je lui ai demandé qu'on se mette tous autour de la table, M. Pellieu, les députés, sénateurs, tout ça, qu'on se mette tous autour de la table en visioconférence avec le préfet, en visioconférence avec Matignon, justement pour qu'on sorte de cette crise et surtout qu'on ait la validation du protocole que l'intersyndical a proposé.
Et ce protocole réclamé, il ne change pas. Je vous le rappelle, il faut renoncer à l'abattage total des cheptels. C'est vraiment là que ça coince. Les agriculteurs ont le sentiment de ne pas être ni entendus ni compris là-dessus. Je vous rappelle que ce protocole est le point d'accord entre tous les syndicats. C'est assez rare pour être rappelé. S'agissant du blocage des accès aux stations de ski, ce n'est pas tout à fait la même chanson. Cette décision, elle fragilise l'entente intersyndicale et des agriculteurs s'opposent au blocage de l'économie locale avec en filigrane le sentiment qu'ils n'ont pas joué toutes les cartes avant cette ultime étape, une étape plus lourde à mettre en place et plus indigeste pour l'opinion publique. Pourquoi aller dans les stations pour embêter les locaux alors qu'on ne s'en est jamais pris, par exemple, à la Direction Générale des Finances Publiques? Voilà le genre de réaction lancée hier soir. Je vous propose d'écouter quelques bouts de ce dialogue.
Est-ce que les citoyens se soucient quand les agriculteurs n'ont pas de vacances? Les citoyens, ils veulent de la qualité des alentours dans leur assiette ou ils veulent aller faire du ski? Il va falloir savoir un peu peut-être du ski. Non, mais du ski, ils veulent aller faire du ski. Alors quand on dit pas bloquer les vallées, ci et là, les vallées, c'est un moyen d'impact économique pour le faire sur le moment. Que vous soyez de n'importe quel syndicat, que vous soyez syndiqué ou pas, hein, il faut suivre le mouvement, il faut venir. Et on commence dans les Hautes-Pyrénées et après ça va s'étendre. Sinon, c'est du violon. Là, tout le monde veut faire les fêtes de Noël et ci et là. Moi aussi, j'ai du boulot chez moi. Je me perds le chiffre d'affaires, hein, comme tout le monde. Hein. D'accord? Et on est là depuis 7 jours.
Genre, est-ce que c'est une bonne chose de bloquer les vallées ou de bloquer les stations? Moi, je suis là aujourd'hui, c'est pour vraiment soutenir le mouvement, mais on veut bloquer les stations, on aille bloquer les stations. Les stations, c'est les agriculteurs qui les font tourner. Moi? Moi, je suis agriculteur à Vicom Bigorre, mais mes parents habitent à Luce. Genre, là-haut, les stations, ce qui les fait fonctionner, les stations, c'est les agriculteurs qui travaillent avec les dameurs. 90% des dameurs, c'est les agriculteurs aujourd'hui. Donc si on bloquait les stations, déjà c'est aussi là-haut donc, de baisser le truc et de bloquer la station là où c'en est. Par contre, si vous bloquez la vallée entière, il y a aussi toute l'économie de la vallée. Et notamment, moi je parle de là-haut parce que je connais un peu la vallée, ça veut dire qu'il y a plein de restaurants qui travaillent en circuit court aussi. Donc ça veut dire que bloquer la vallée, vous allez bloquer les débits qu'il va y avoir par rapport que ce soit au fromage ou la viande. Et en fait, ça va nuire un peu aussi à eux qui sont là-haut. Au débit de viande, si vraiment bloquer les stations, c'est les stations. Moi, je pense, pas forcément les vallées.
On entend que de faire guerre ou pas guerre aux collègues, et je t'entends, Nicolas. Le seul truc aujourd'hui, et nous, on perd pas de l'argent d'être sur les ronds-points. Vous en perdez pas, les mecs. Et si vous avez les troupeaux à terre, vous en perdez. Et vous en perdez pas du. On en perd pas de l'argent. Donc, au moins, moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut tous peut-être se mettre la main dans la poche, tous perdent un peu d'argent, hein, parce que les manifestants dans les ronds-points, on n'est pas là pour faire les piquets de grève et dire on a empilé. Hier, on aurait empilé devant la préfecture, ça aurait changé quoi? Rien du tout. Aujourd'hui, il ne faut pas de l'abattage total, vous ne remonterez pas. Ils le savent très bien, si on fait l'abattage total, c'est déjà d'entrée 30% du cheptel français minimum, voire l'anéantissement de la filière bovine en France. C'est les gens qui avancent ça, qui le prônent, eh, ils ont prôné l'abattage depuis 6 mois, il va falloir qu'ils assument. Alors chacun assumera. Donc moi je pense que si on ne bloque pas, filtrant, d'accord, mais qu'on ne vienne pas me dire, en période de guerre, eh, on fait tous l'effort. On est en période de crise, on fait l'effort. Après, c'est une intersyndicale, je respecte les choix et les positions de chacun, mais on ne va pas laisser aller certains au feu, ou alors quand les seuls qui vont au feu, eh bien, s'il n'y en a que deux qui vont au feu, Eh bien, alors on n'écoute que les deux. C'est tout. On ne laisse pas les deux se faire fusiller au front et les autres commander derrière. Hein. C'est tout ce qu'il faut faire.
Mais si on bloque d'entrée pendant 3 ou 4 jours, à mon avis, ils vont réfléchir.
Ben oui.
Et c'est peut-être un mal pour un bien, en fait. C'est peut-être un mal pour un bien.
Il ne faut pas les laisser monter.
Parce qu'il y en a, ils se privent pendant une année pour aller au ski.
Pour éviter justement un impact, j'espère qu'ils vont lâcher avant. Ils ne sont pas bêtes au point de...
Moi, j'ai 4 enfants, ça fait 6 ans que je ne suis pas partie en vacances. Quoi. Et je travaille 365 jours, 365, et je fais 450, 480 par mois. Quoi. Pardon.
Non, on ne bloque pas, mais par contre, ça risque de faire quand même un sacré bordel si tu te mets à haro et que tu laisses passer doucement les véhicules. Je pense que tu vas mettre un sacré bordel. L'idée pour moi, c'est vraiment de monter crescendo sur la pression de l'État. La pression de l'État, elle l'aura, l'État, il aura la pression s'il voit que le mouvement, il continue et qu'il se diversifie dans les actions. Et ça, c'est montrer qu'on diversifie dans nos actions et ce sera montré à Pellieu aussi qu'on est dans la négociation. Ce qu'il faut dire à Pellieu aujourd'hui, c'est que les paysans, ils sont motivés à bloquer. Eh bien, on ne bloque pas encore, on est encore dans la négociation. Et vendredi soir, on verra si on continue à négocier ou non.
Alors, si vous ne voulez pas y aller, eh bien, vous le dites. Ceux qui veulent y aller, ils se mettent d'un côté, les autres de l'autre. Si mais qu'on sache en ordre de bataille qui veut aller dans les vallées. Et si on ne veut pas, voilà.
Qui veut aller là-bas ?
Vous venez d'entendre Christophe Gaillat, vice-président de la CR65, en dialogue avec les agriculteurs mobilisés, inquiets et certainement un peu plus tendus hier soir qu'en début de semaine. Les agriculteurs sont donc encore dans la négociation. Ils ont bien conscience de tenir les ficelles du jeu, mais aujourd'hui la balle est dans le camp du gouvernement. Ces agriculteurs qui semblent donc lui dire à ce gouvernement « on y va doucement, mais on y va quand même, alors décidez-vous avant le blocage total et la prise en otage de la population qui, elle, se prépare aux fêtes de Noël. »
Voilà pour ce reportage réalisé par Anne-Rose Jankovic, reportage réalisé hier soir donc dans les départements des Hautes-Pyrénées.
Présence.
Et de la crise agricole, on en reparlera dans un quart d'heure dans le journal régional. Pour le moment, direction Bayonne pour évoquer l'actualité du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Dans un instant avec Violaine Ricourt-Dumas, on va détailler les prochains événements. Ils sont nombreux, notamment ce week-end.
Mr. Gabo Malay.
Welcome to New York City, ladies and gentlemen. All right.
All right.
Start spreading the news.
All right.
I'm living today. I wanna be a part of it.
Yeah.
New York, New York.
These vagabond shoes, they're longing to stray right through the very heart of it. New York, New York.
I want to wake up in a city that never sleeps. I'm fine, I'm king on the hill, top of the hill. These little town blues melting away. I'll make a brand new start of it. Be no New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York.
it's up to you, New York.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr.
Présence.
Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
On vous retrouve pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. L'agenda béarnais nous amène pour débuter du côté de l'IFOCAP Adour qui vous propose une conférence de l'abbé Jean Cazanave.
L'abbé Jean Cazanave, qui a été le responsable de la formation des laïcs en Béarn pendant de nombreuses années et qui donc fait partie de cette association IFOCAP Adour qui s'occupe du monde agricole, il nous propose une conférence ce soir à 18h à Navarinx. Ce sera à la salle du fronton qui se trouve place d'Harald à Navarinx et ce sera sur les femmes engagées dans l'Antiquité biblique. Décououvrir toutes les femmes de la Bible. On en connaît quelques-unes de nom en tout cas, Déborah, Anna, Ruth, Judith, Esther, donc il va nous parler de toutes ces femmes qui ont été engagées dans la Bible et ce sera donc à 18h. À noter qu'on peut aussi suivre cette conférence en visio si on ne peut pas se rendre à Navarinx. Le lien de la visioconférence se trouve sur le site du diocèse www.diocèse64.org dans l'agenda à la date d'aujourd'hui. Donc vous retrouvez ce lien vers la conférence de l'abbé Jean Cazanave ce soir à Navarinx.
Toujours ce soir, Monseigneur Marc Aillé, l'évêque de votre diocèse, présentera son dernier ouvrage à Pau.
L'Église face au monde moderne, c'est un livre écrit à partir d'interventions que Mgr Aillé a faites sur l'encyclique Evangelii Nuntiandi, qui est une encyclique de Paul VI, qui date de 1975, donc qui fête ses 50 ans. Une encyclique qui parle d'évangélisation, de mission, un thème cher à notre évêque, donc qui va venir nous en parler ce soir. C'est les plus de la formation permanente du Béarn qui propose donc cette conférence. C'est à 20h30 et ça se passe à l'auditorium de l'Immaculée Conception qui se trouve 7 boulevard Édouard Herriot à Pau, donc avec Mgr Aillé ce soir, l'Église face au monde moderne à 20h30 à l'Immaculée Conception de Pau.
On poursuit avec cette exposition de vêtements liturgiques anciens, c'est à Morlas à côté de Pau.
C'est assez unique, c'est tout le week-end une exposition assez exceptionnelle de vêtements liturgiques qui sont en général relégués dans les sacristies, qui ont été sortis pour l'occasion. C'est l'association Art, Culture et Patrimoine du Pays de Morlas qui nous propose cette exposition. Elle sera dans l'église Saint-André de Morlas, qui est elle-même une très belle église avec un beau fronton et une magnifique crèche du XVIIIe siècle à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à venir, c'est tout le week-end, samedi et dimanche de 10h à 18h sans interruption et vous pourrez donc admirer des vêtements liturgiques anciens avec explication pour comprendre le patrimoine de l'Église catholique, l'histoire de l'art textile et à travers cela on découvre l'histoire de l'Église aussi. Et à noter qu'à 15h samedi et dimanche, l'association va présenter un film documentaire qui s'intitule Au fil de l'art, qui va nous montrer le travail de Marjolaine Salvador Morel qui est dentelière et qui adapte ses connaissances à son travail de sculpture avec des fils de nylon. Donc ça sera aussi assez intéressant à voir. Donc tout le week-end dans l'église Saint-André de Morlas pour cette exposition de vêtements liturgiques anciens.
Voilà, à ne pas manquer, hein. C'est assez exceptionnel effectivement de voir ces vêtements liturgiques qui sont en quelque sorte des œuvres d'art.
Tout à fait, c'est vraiment des belles œuvres et qui sont très peu sorties et c'est aussi l'occasion de les remettre en lumière et peut-être pourquoi pas d'essayer d'espérer qu'elles pourront être mieux conservées à l'avenir et mieux exposées.
Dans quelques jours, c'est Noël et c'est pour nous l'occasion de parler d'un spectacle de Noël à Maumour, dans la petite commune de Maumour.
Moumour, qui se trouve près d'Oloron-Sainte-Marie, c'est au nord-ouest de d'Oloron-Sainte-Marie, un spectacle de Noël qui va être donné par un groupe d'enfants qui s'appelle la troupe La Folie Galaxie. C'est un groupe d'enfants de 6 à 14 ans qui, tout au long de l'année, présente un spectacle musical. Et donc là, vous allez être emportés par leur spectacle sur donc cet esprit de Noël qu'ils vont nous faire passer à l'occasion de ce spectacle dans l'église, qui sera à 20h30 samedi soir à l'église de Moumour, avec des chansons, des effets lumineux, un spectacle familial et apparemment beaucoup d'humour prévu. Donc n'hésitez pas, là aussi, si vous habitez dans le coin, à venir. C'est à Moumour, donc au nord-ouest d'Oloron-Sainte-Marie, samedi soir.
Plusieurs concerts de Noël sont organisés dans nos villages et vous avez décidé de nous parler de ce concert de Noël à Estiales.
Estiales, qui est toujours dans le coin d'Oloron-Sainte-Marie. On met un peu à l'honneur cette région. Donc c'est au nord-est d'Oloron-Sainte-Marie, Estiales, où vous aurez un concert de Noël dimanche à 15h30. C'est le chœur du Faget, qui est un ensemble masculin qui a été fondé en 1966, qui va interpréter des chants traditionnels béarnais. Il y aura aussi des créations originales et ça se passe dans l'église Saint-Vincent-Diacre d'Estiales, donc nord-est d'Oloron-Sainte-Marie. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter des beaux chants traditionnels béarnais, n'hésitez pas à venir dimanche à 15h30 dans l'église Saint-Vincent-Diacre d'Estiales.
On poursuit avec cette retraite du Nouvel An, c'est proposé par la communauté des Béatitudes à Naï.
Comme chaque année, la communauté des Béatitudes vous propose de passer le Nouvel An ensemble. Alors ça peut être soit la soirée du 31 décembre, soit une retraite de quelques jours, du dimanche 28 au jeudi 1er janvier, pour passer le Nouvel An en communauté religieuse. Il y aura des temps de prière, des temps d'enseignement, des temps aussi festifs, bien sûr. Et donc pour vivre ce Nouvel An avec la communauté des Béatitudes à Naï, 18 Côte-Saint-Martin, qui vous accueillera à bras ouverts, comme toujours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez aller sur le site de la communauté, donc naï.béatitude au pluriel .org. Sinon, je vous donne un numéro de téléphone, le 07 66 84 10 83. 07 66 84 10 83, si vous voulez plus de renseignements sur cette retraite du Nouvel An, donc pour cette fin d'année avec la communauté des Béatitudes de Naï.
L'année sainte sera clôturée officiellement par votre évêque ce 28 décembre.
Tout à fait. Donc, comme dans beaucoup de diocèses de France et du monde, ce sera dimanche 28 décembre pour notre diocèse à la cathédrale de Bayonne. Il y a une seule messe pour tout le diocèse. Autant l'ouverture, on l'avait fait dans les trois cathédrales, mais la messe de clôture, ce sera seulement à Bayonne. Donc, à 16h, dimanche 28 décembre, date à noter pour ceux qui peuvent s'y rendre ou s'unir par la prière. Donc, pour cette clôture de l'année sainte 2025, jubilée 2025 que nous avons vécu intensément, donc qui sera clôturé ce dimanche 28 décembre.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, l'agenda béarnais. Sur le site internet de votre diocèse, on retrouve cet onglet à agenda. Et également à la une de votre site, on peut retrouver le communiqué de Mgr Marcaillé concernant la crise agricole.
Tout à fait. Donc, il a publié ce communiqué hier pour soutenir les agriculteurs et pour évoquer les inquiétudes du monde agricole. Donc, n'hésitez pas à le lire sur le site du diocèse64.org.
Un grand merci, Violaine Ricourt-Dumas. Il me reste quelques secondes pour vous souhaiter un bon et saint Noël, puisqu'on se retrouvera eh bien l'année prochaine sur Radio Présence.
Merci beaucoup et très joyeux Noël à vous aussi.
Présence.
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Dans un instant, c'est Wassim Dir qui nous rejoint pour le journal régional. Wassim Dir de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et puis juste après, eh bien, nous aurons le plaisir d'accueillir Anne Lasser pour le regard des écrivains sur les Pyrénées en compagnie de Philippe Subercaz. Bon appétit à vous qui nous écoutez.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9.
Présence midi se poursuit avec à la mi-journée le journal régional. Le journal est présenté par Wassim Dir, étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à toutes et à tous. La vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse a débuté cette semaine dans les Hautes-Pyrénées. À Ciotat, 82 bovins ont reçu leur première dose sous l'œil d'un vétérinaire de Lannemezan. Cette campagne fait suite à la détection d'un premier cas de la maladie à une vingtaine de kilomètres de là. L'objectif est de contenir la propagation de ce virus qui touche les troupeaux bovins du département. Le CHU de Toulouse reste le numéro 1 des hôpitaux français. Le magazine Le Point vient de publier son palmarès 2025 et le centre hospitalier toulousain conserve la première place, une position qu'il occupe presque sans interruption depuis la création du classement. Cette année, plus de 1700 établissements ont été évalués dans 83 disciplines différentes. En parallèle, le CHU poursuit sa réorganisation depuis début novembre. Les urgences de Purpan et Rangueil n'accueillent plus les patients sans besoin d'hospitalisation prolongée. À Quéro, c'est le grand rendez-vous des 13-15 ans dans la région. Organisé tous les deux ans à Lourdes par la pastorale diocésaine, l'événement revient du 22 au 25 avril 2026, pendant les vacances de Pâques. 4 jours pour prier, chanter et célébrer ensemble dans une ambiance conviviale et spirituelle. À Saint-Giron, un nouveau candidat se lance dans la course municipale. Christophe Mirouz annonce sa candidature indépendante pour mars 2026. Il veut bâtir un projet collectif fondé sur la transparence, la proximité et l'avenir du territoire. Les réveillons solidaires de la Fondation de France débutent aujourd'hui à Toulouse au café associatif L'Escabelle dans le quartier Arnaud-Bernard. Un réveillon inclusif est organisé avec repas, ateliers et danse, préparé main dans la main avec des habitants en situation de précarité. La place Saint-Pierre, quant à elle, se transforme depuis hier en grand banquet de fin d'année. Une seule table géante pour partager l'esprit des fêtes. La solidarité continue dimanche avec l'association La Cloche, qui proposera à son tour une journée conviviale, mêlant repas, musique et distribution de cadeaux. Vous voulez bouquiner pendant les vacances? Deux bibliobus sillonnent Toulouse pour amener les livres directement aux lecteurs. Romans, BD, guides de voyage ou DVD, plus de 40 000 documents sont disponibles dans ces bibliothèques mobiles avec un coin de lecture à bord. Aujourd'hui, l'un des bus fait halte à l'espace Jobs ce matin, puis aux 150 routes de Blagnac cet après-midi. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un service de portage à domicile existe aussi. Le calendrier complet des passages est à retrouver sur le site des bibliothèques de Toulouse. Enfin, pas besoin de partir au pôle Nord pour admirer des aurores boréales. Ce samedi, de 18h à 22h, le projet de la Dorade à Toulouse s'illuminera de voiles vertes, bleues et violettes grâce au projet Boréal. Une création signée par l'association locale L'Agence de la Création, qui transformera le site en véritable paysage arctique le temps d'une soirée. Une expérience lumineuse et poétique à ne pas manquer dans la Ville Rose. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci Wassim Dir, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le remercie. Merci. Retour de l'info sur notre antenne à 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican. La crèche et le sapin de Noël, c'est le menu de la chronique d'Annick Baléry dans un instant avec les causeries vertes. Causeries vertes, Annick Baléry, Philippe Subercase, juste après le chanteur Ozam.
Dans la planète Terre, mes plaies saignent de l'encre de perles sur un paquet de feuilles. Je m'adonne la nuit quand mes idoles s'endorment. Certains souhaitent qu'à mes obsèques ce soit ces textes que l'on entonne. Nos mains agiles agissent dans l'argile. Mes yeux au bord des lèvres chuchotent des propos fragiles. J'aime chanter mes sentiments, j'ai des pensées sémantiques. Les rêves immenses d'un âme vivant. Nos mains agiles agissent dans l'argile, mes yeux au bord des lèvres chuchotent des propos fragiles. J'aime chanter mes sentiments, j'ai des pensées sémantiques. Les rêves immenses d'un âme vivant. J'analyse l'évidence, j'ai quitté le silence, l'air élancé et les mots dansent dans ce récit écrit dans ma résidence. Les si rendent indécis, je m'élance, Marie. rime est silente, je sirote les syllabes. Marie, ma fiancée, l'assonance est confidentielle. La messe est immense, rassurante, je suis moins seule. Les sujets sont denses, nos vies sans nuance. Ma vie c'est nuance, ensevelée dans un linceul.
Lasserre et Philippe Subercaz.
Présence à Salis du Salat 94.1.
Mon beau sapin.
Presque chanter avec vous aujourd'hui, avec Valérie. Bonjour, Annick, d'abord.
Bonjour, mon beau sapin, c'est
oh,
ça.
Oh, bon sapin, roi des forêts, oui. Que j'aime ta verdure.
Oui.
Aujourd'hui, on va parler effectivement avec vous du sapin de Noël. Bah oui, là, on y en plein hein, maintenant. Hein. Donc, qu'est-ce que vous nous avez concocté, là, Villon?
Alors, bon, la coutume du sapin de Noël, elle n'est pas si vieille que ça. Donc, je vais vous faire l'historique. À l'époque du Moyen-Âge, on avait l'habitude de faire des rites qui étaient en rapport avec le retour du jour. C'est-à-dire qu'on avait peur, je vous l'ai déjà expliqué, que le jour ne revienne pas, que ces journées qui s'amenuisent encore jusqu'à la nuit totale. Donc, on faisait des rites pour célébrer le rallongement des jours et le retour plus tardif du printemps. Et donc, pour symboliser tout ça, on avait l'habitude de décorer les maisons avec des feuillages verts et de figurer aussi un arbre qui était censé être l'arbre du paradis en prenant un arbre bon, qui n'était pas forcément persistant et en le décorant avec des pommes rouges. Et ces fameuses pommes rouges, c'est l'origine des boules de Noël, en fait. Mais le sapin lui-même, en fait, c'est une tradition qui nous est venue de l'Alsace et des pays germaniques. Et voilà, donc en Alsace, au XIIe siècle, il y a il a été relaté que bon, ça a commencé à être utilisé. Les grands sujets étaient qui coûtaient cher, étaient utilisés soit dans des demeures prestigieuses, soit dans des espaces publics. Et les gens, eux, se contentaient de décorer leur maison avec des branchages.
Mmh.
Voilà.
Alors là, je vais peut-être vous titiller un petit peu, oui, Annick Valérie-Veillon. Il y a effectivement tout le monde, aujourd'hui pratiquement tout le monde, met un sapin chez soi pour fêter Noël. Alors il y a bien sûr le sapin synthétique qu'on achète et qu'on range dans le grenier jusqu'au printemps, jusqu'au Noël prochain, pardon. Et puis il y a ceux qui encore donc vont chercher le vrai sapin. Alors est-ce que votre âme de qui aime la nature, est-ce que ça vous révolte que on prend un sapin, on le coupe, on le décore et puis après il part à la poubelle?
Oui, donc quand même savoir, il faut rester raisonnable. C'est que ces fameux sapins, ils ont été cultivés pour ça. Ça fait vivre quand même pas mal de gens. Et au niveau de l'impact écologique, un sapin qui a capté du carbone pendant quelques années, comparé au sapin en plastique qui a demandé quand même pas mal de produits pétroliers et autres, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est quand même le sapin naturel qui gagne. Il faut savoir que ces sapins, ils ne sont plantés uniquement que pour ça. Alors en France, c'est surtout dans le Morvan qu'on les trouve. C'est une filière.
Quel est le sapin idéal pour Noël? Parce qu'on a cette problématique, effectivement, que quand le sapin meurt, il perd ses aiguilles et qu'on en a partout aussi dans la maison.
Alors, justement, vous avez vous pensiez me coller, raté.
Pas du tout.
Voilà. Bon, vous avez actuellement, si on accepte les sapins bleus qui sont très luxueux et qui ne rappellent pas forcément le code rouge et vert de Noël, vous avez le choix entre l'épicéa, qui est le moins cher, mais qui est bien parfumé. C'est important aussi le parfum, cette odeur presque de d'écorce d'agrumes qui fait partie de la magie de Noël. Moi, je plaisante pas, ça sent vraiment très très bon. D'ailleurs, on fait des bougies parfumées aux agrumes ou aux sapins. Ça participe aussi à la fête. L'épicéa donc qui est le moins cher perd rapidement ses aiguilles. Alors ça c'est ennuyeux. Donc vous avez aussi le sapin de Normand. Alors le sapin de Normand, on le reconnaît surtout parce que ses aiguilles ne piquent pas, elles sont plutôt souples. Et c'est une espèce qui est pas originaire d'ici, c'est une espèce qui est arrivée au 19e siècle. En provenance d'Asie occidentale, on l'appelait le sapin de Crimée au départ. Et les premières graines sont arrivées en 1838. Donc voilà, c'est pas le Moyen-Âge, c'est bien après.
Ah oui, c'est pas si loin que ça.
C'est un Alexander von Normann qui a expédié les premières graines. Voilà. Mm-hmm. Donc maintenant, c'est devenu une culture à part entière. Et c'est pas étonnant en fait que ce soit quelqu'un d'origine, enfin je sais pas s'il était prussien ou voilà, mais d'origine germanique qui est introduit et qui se soit intéressé au sapin de Crimée, parce qu'en fait la tradition du sapin de Noël est une tradition typiquement germanique, et c'est en fait c'est relaté depuis très longtemps à la Renaissance, donc dans les pays germaniques ça existait déjà fortement, et puis c'est arrivé en fait après en France, après la guerre de 1870, quand les Alsaciens qui ne voulaient pas devenir allemands se sont réfugiés en France, ils ont apporté avec eux la tradition du sapin de Noël, et c'est comme ça que ça s'est généralisé.
Mmh. Alors aujourd'hui effectivement tout le monde a un sapin, ou on met des sapins partout, dans les écoles, dans les chez soi bien sûr, mais dans les écoles, dans les villes où on décore les sapins pour cette période festive.
Voilà. Et savez-vous ce que l'on raconte à propos des boules de Noël? Parce que il y a des légendes pour tout. On raconte qu'une année en Alsace justement, la récolte de pommes avait été catastrophique et on n'arrivait pas à trouver de pommes rouges en nombre suffisant pour décorer les sapins. Et donc un verrier eut l'idée géniale de fabriquer des pommes en fait en verre.
D'accord.
Et c'est comme ça que l'industrie de la boule de Noël a commencé.
La boule de Noël a commencé. Ouais. Voilà, donc le sapin. Donc, alors, vous voyez, je n'aurais pas parié, je me serais dit Annick Ballerine était contre les sapins naturels. Eh bien non, elle préfère le sapin naturel au sapin chimique, puisqu'en fait il est en plastique, donc il est à base de pétrole.
Sachez quand même que voilà, c'est une tradition qui maintenant est présente dans toutes les maisons parce que c'est abordable, mais c'est un luxe qui a été réservé à un moment dans les palais. Il y a eu un sapin de Noël à la cour de Versailles quand Louis XV a voulu faire plaisir à son épouse polonaise.
Eh oui.
Et voilà,
on repart vers l'Est, oui, effectivement.
Voilà, on repart vers l'Est, voilà. Mais c'est aussi parce qu'il y a ces cultures en nombre que le sapin s'est démocratisé.
Mmh. De toute façon, le sapin, on s'en sert pour du bois, mais ce n'est pas un bois de très grande qualité. Et surtout, on ne s'en sert pas pour se chauffer, parce qu'il est résineux.
Il est résineux. Et... Après, si, on peut avoir des sapins qui poussent vite. Le sapin de Douglas en fait partie, qu'on utilise pour les bénisteries, enfin pour fabriquer des meubles. Mais c'est vrai que pendant longtemps, la culture des résineux a été liée à la fabrication de mâts. C'est comme ça que la forêt landaise a été créée. Il fallait des mâts pour les bateaux de la marine royale. Voilà. Donc, des petites historiettes.
Voilà, les grandes forêts des Landes. Oui, il y en a là, des sapins. On a fait le tour donc, des sapins. Alors vous, Annick Valérie, votre sapin, il ressemble à quoi?
Allez. Ah, vous allez être ulcéré. C'est un sapin plastique. Il est blanc. Il est très, comme on dit maintenant, en imitant les Américains, girly. C'est-à-dire, il est décoré de violet et de rose fluo. Et voilà, mais bon, ça paraît assez, assez redoutable comme ça. Mais voilà, j'ai renoncé au rouge et vert il y a quelques années.
C'est votre sapin.
Voilà, c'est mon sapin.
Voilà, exactement. C'est votre sapin de Noël. Merci beaucoup, Annick Valérie. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, on va parler de la bûche. Alors, effectivement, la bûche de Noël, vous allez aussi nous raconter qu'elle a une histoire, cette bûche. Et on remonte là aussi, il y a quelques années, on va prendre la machine à remonter le temps. Et d'où vient l'origine de la bûche, bûche de Noël, qu'on a bien sûr aussi traditionnellement en dessert donc pour ces fêtes de fin d'année. Eh bien, on découvrira tout ça avec vous la semaine prochaine. Bonne semaine, Annick, la semaine prochaine.
Bonne semaine, Philippe. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Présence.
D'un cœur crémeux et de délicieux copeaux de noix de coco. Raffaello.
Présence.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Et joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous aussi.
On va souhaiter bien sûr un joyeux Noël à tous les gens qui nous écoutent et qui, j'espère, là où ils sont, prennent un petit peu de plaisir. C'est vrai que c'est une très belle fête, Noël, lorsque tout va bien, lorsqu'on est en famille. Et puis, on pense à ceux qui sont dans la peine, qui ont perdu un être cher ou qui sont malades. Voilà, une petite pensée. Alors, on va prendre la machine à remonter le temps, parce que vous avez la clé, vous, de cette machine. Et vous avez cette chance-là d'avoir cette clé. On part pas si loin que ça, début du XXe siècle.
Oui, on est au tout début du XXe siècle et Pierre Manse raconte les Noëls de son enfance, mais il parle aussi des distractions qu'avaient les jeunes enfants dans le village de Mérieux, dans le Piémont pyrénéen.
Alors,
mais avant, Philippe, je voudrais, comme vous, m'associer à vos vœux et souhaiter de bonnes fêtes de Noël à tous les auditeurs de Radio Présence. Comment vivait-on dans les Pyrénées il y a un siècle ? Pierre Manse le raconte en parlant de Mérieux, village du Piémont pyrénéen. Il consacre un chapitre aux distractions et jeux. La légende du Père Noël, écrit Pierre Manse, était inconnue à Mérieux. Aucun jouet de bazar n'était offert en cette occasion. Mais les enfants savaient s'amuser quand même, et peut-être mieux. Les filles idéalisaient, comme partout et comme toujours, des poupées dans de petits sacs de son ou de sûre, adroitement ficelés, et leur délicatesse maternelle savait s'épanouir avec candeur sur ces mannequins dérisoires. Elles avaient leur ronde dans la cour de récréation de l'école, avec leurs couplets et leurs comptines en patois et en français gasconnais. Les garçons jouaient d'une façon plus virile. Leur jeu préféré était celui des barres et de la toupie. Nous avions aussi les billes. Rentrés en classe après les récréations, il n'était pas rare que quelques billes s'échappât de notre main pleine et roulât sur le plancher. Nous la suivions des yeux consternés. Le maître intervenait. C'était la confiscation générale. Au printemps, à la sève montante, nous faisions des sifflets avec des rameaux de frêne. Nous savions en moduler le son en réglant leur longueur dans l'écorce humide. Notre grand ami, le compagnon fidèle de toutes nos sorties, c'était le chien de la maison, le petit chien de berger, le labri ou le farou, intelligent, dévoué, affectueux, qui paraissait ne vivre que pour nous. Et dans notre vie simple et pauvre de petits ruraux, nous étions plus ingénieux et sûrement aussi heureux que ne le sont de nos jours tous les enfants comblés. Les distractions d'hiver commençaient par la Sainte-Barbe. Noël venait ensuite très vite. Noël, avec ses gelées, sa neige plus abondante qu'à présent, ses glissoires sur les chemins où nos sabots cloutés d'enfants faisaient merveille. Plusieurs jours avant, à la nuit tombée, on entendait au loin se répondant de toutes parts les longs meuglements que les jeunes gens poussaient dans des cornes creuses de bœufs. C'était sinistre et prometteur à la fois. Sans le savoir, ils annonçaient, avec la naissance de l'enfant Dieu, la fin des journées courtes et les relevailles du soleil. Le jour de Noël venait, sans fête ni cadeau, marqué seulement par la messe de minuit, la messe traditionnelle que l'on n'aurait pas voulu manquer. On veillait un peu plus ce soir-là. On se rassemblait auprès du grand feu de cheminée où se consumait la grosse souche sèche que l'on avait mise depuis longtemps de côté pour la circonstance. On faisait griller des châtaignes que l'on arrosait de cidre nouveau, encore sucré et pétillant. Tard dans la nuit, de demi-heure en demi-heure, les trois sonneries se succédaient de plus en plus carillonnantes. On se mettait en route par groupe, guidé par la petite lumière vacillante de la lanterne aux quatre vitres enfumées. Les sabots claquaient sur la terre gelée. L'église sombre était dans un coin, tout illuminé de bougies, autour d'une rustique crèche en paille où reposait un gros poupon. La messe, semblable à la grand-messe des dimanches, se terminait par le cantique solennel, chanté par tous à pleine voix. Une à une, les lanternes s'éteignaient et la longue nuit d'hiver silencieuse et mystérieuse enveloppait à nouveau la large campagne endormie. Le matin du jour de l'an, les grands garçons de l'école, plus ou moins dépenaillés, par groupe de trois ou quatre, allaient de ferme en ferme, souhaiter la bonne année. Ils exprimaient leurs vœux toujours de la même façon, en patois, sans grande conviction, à mi-voix, avec le ton de demander la charité. On ne les laissait pas repartir sans leur donner une grosse pièce en cuivre de 2 sous, ou un morceau de pain, ou 2 ou 3 œufs, ou quelques pommes de Pouzac conservées sur le tas de blé. Ils s'en allaient alors en courant, en oubliant souvent de dire merci. Et ils se hâtaient pour devancer à la ferme voisine quelque autre groupe qui lui aussi souhaitait la bonne année. Parfois, une ou deux fois durant l'hiver, la neige tombait en abondance, nivelant la campagne, couvrant les fossés, dissimulant les clôtures, accumulant des congères. Les laitières ne pouvaient plus le matin aller vendre leur lait. Les hommes alors partaient en ville à travers champs, le bissac aux bouteilles sur l'épaule, avec leurs gros sabots, leurs longues guêtres de drap, et leurs grandes chamardes brunes. L'après-midi, spontanément, ils faisaient la corvée. À l'appel, ils allaient tracer un cheminement étroit entre deux murs de neige qui s'élevaient parfois jusqu'à l'épaule. Et le lendemain, les petits sabots recommençaient à claquer dans la tranchée glacée qui conduisait à la route, au chemin neuf. Et la vie continuait. Pierre Mans évoque la vie dans le Piémont pyrénéen telle qu'elle était au début du XXe siècle. Ce n'est pas si éloigné dans le temps, et pourtant tout paraît si différent. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « Mérieux de mon enfance », publié en 1868.
Voilà, Noël, autrefois, on s'apercevait que ce qui était important à l'époque, c'était d'être ensemble. Le repas peut être un petit peu amélioré, mais voilà, Noël, c'était bien la naissance de Jésus-Christ qui était vraiment à l'honneur. Rien ne polluait ça.
Et pourtant, ce n'est pas si loin que ça.
Et non,
tout juste un siècle.
Un siècle, voilà. Un cent ans, ça a bien changé, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Anne Lasserre. On va vous laisser repartir peut-être avec vos invités. Voilà, un petit coucou, on l'a dit au début de cette chronique, une très forte pensée pour les gens qui passent Noël seuls. Eh bien, voilà, nous, on est là avec eux, quelquefois, grâce à la magie de la radio. Et on leur souhaite, bien sûr, plein de courage et un joyeux Noël à tous. Et puis, un joyeux Noël à vous, Sienne.
Voilà. Et je souhaite donc de bonnes fêtes à tous les auditeurs. Bonnes fêtes aussi à vous, Philippe.
Présence.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller ? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence.
Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier tant que l'amour inondera. Mais matin, tant que mon corps frémira sous tes mains, que ma porte les portes rêvées, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. Oh, un jour, la vie t'arrache à moi, si
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence. Présence.
Dans la vallée du Lot, 92.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Message pour la paix de Léon XIV. Le pape souhaite un réveil des consciences face au réarmement mondial. Il met